France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
À quoi sert l'État ? Cette question nous occupe cette semaine. Aujourd'hui, l'État nous sert à survivre, la théorie de Thomas Hobbes. L'Antiquité et le Moyen-Âge ont connu pour l'essentiel des cités et des empires. La forme État pour organiser notre condition politique commune est typiquement moderne. Elle produit une séparation étonnamment nette, parfois, entre d'un côté la société et les éventuels pouvoirs qui s'y font repérer, familiaux, religieux, et de l'autre côté des structures administrant le pays de manière puissante et homogène. L'État s'est forgé peu à peu en Occident à partir de la fin du Moyen-Âge. La France l'a particulièrement développé, aidée par des monarques absolutistes, désireux de créer une administration substantielle et surtout sur le plan juridique par le concept de souveraineté inventé par le légiste français Jean Bodin en 1576 dans ses 6 livres de la République. Pourquoi a-t-on créé l'État ? Pourquoi cette puissance pérenne, par-delà la variation de ses dirigeants ? Cela vaut la peine de se reposer cette question dans notre actualité française, où la tête de l'État, le gouvernement, est devenue ces derniers mois particulièrement instable, souvent constituée de ministres démissionnaires. L'État est-il la force administrative durable qui sauve la situation ? Ou bien perd-il lui aussi de sa stabilité ? Et puis, cette situation nous confirme-t-elle à quel point l'État est nécessaire ? Ou bien, au contraire, nous fait-elle douter de son importance ? À quoi sert l'État ? Alors d'abord à survivre, nous dit la théorie politique, et c'est un argument essentiel de Thomas Hobbes dont nous parlons ce matin. Thomas Hobbes, philosophe anglais, auteur d'un livre majeur, Léviathan, publié à Londres en 1651, c'est-à-dire 2 ans après la décapitation du roi Charles Ier en pleine révolution anglaise sanglante. Mais n'oublions pas, justement, que le français Jean Bodin déjà avait publié son grand ouvrage sur la souveraineté 4 ans après le massacre de la Saint-Barthélemy de 1572, massacre qui a remis en selle toute la violence des guerres de religion, déchirant la France de la deuxième moitié du XVIe siècle.
Et les heures rouges commencent à sonner sur Paris. Le duc de Guise se porte devant la maison de l'amiral de Coligny.
Es-tu l'amiral, coquin ?
Jeune homme, tu devrais avoir égard à ma vieillesse et à mon infirmité. Mais tu feras pourtant ma vie plus brève.
Hé ! L'affaire est bien finie !
Oui, monseigneur !
Eh bien, trouve Jacques Bernardet ! Monsieur d'Angoulême ne le croira pas ! Il ne le voit à ses pieds !
Si tu invoques la Vierge et les saints, tu auras la vie sauve, sinon !
Le 10 jours de la Saint-Barthélemy, sur les 11 à 12 heures du matin, ont été entendues par le roi les remontrances qui lui ont été faites par l'édicieur prévôt des marchands et échevins, que plusieurs, tant de la suite de sa majesté que des princes, princesses et seigneurs de sa cour, tant gentilshommes archers de la garde de son corps, soldats de sa garde et suite, que toutes sortes de gens et peuples mélangés, et sous leur ombre, pillaient et saccageaient plusieurs maisons, et tuer plusieurs personnes dans les rues, aurait été enjoint et commandé par sa dite majesté au dit prévôt et échevin monter à cheval et, accompagné de toutes les forces de la dite ville, faire cesser tous les dits meurtres, pilleries, saccagements et séditions et y avoir l'œil jour et nuit.
Mais la meute était lancée et bien lancée.
Tellement bien lancée, comme nous dit le narrateur de cette fiction de la chaîne parisienne de 1959, une tribune sur l'histoire, que se faisait sentir avec acuité la nécessité de forger une puissance publique vraiment capable d'arrêter enfin cette grande saignée. Ce que Jean Bodin a alors inventé est prodigieux. Écoutez ces extraits du premier livre de ces 6 livres de la République de 1576.
La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une république. Cette puissance est perpétuelle, car il se peut faire qu'on donne puissance absolue à un ou plusieurs un certain temps, Mais ceux-ci n'ont pas la souveraineté, attendu qu'ils ne sont rien que dépositaires de la puissance qu'on leur a baillée pour un certain temps. Maintenant, disons ce que signifie « puissance absolue ». Il faut que ceux qui sont souverains ne soient aucunement sujets au commandement d'autrui, et qu'ils puissent donner loi au sujet, et casser ou anéantir les lois inutiles pour en faire d'autres, ce que ne peut faire celui qui est sujet aux lois. C'est pourquoi la loi dit que le prince est absous de la puissance des lois. De même que le pape ne se lie jamais les mains, de même le prince souverain ne peut se lier les mains. Aussi voyons-nous à la fin des édits et ordonnances ces mots « car tel est notre plaisir », pour faire entendre que les lois du prince souverain, bien qu'elles fussent fondées en bonne et vive raison, néanmoins ne dépendent que de la pure et franche volonté. On voit que le point principal de la majesté souveraine et puissance absolue est le fait de donner loi aux sujets en général, sans leur consentement.
Pouvoir donner loi sans le consentement des sujets, être soi-même non lié par les lois, tel est le souverain étatique selon Bodin. 75 ans plus tard, dans la saignée de la guerre civile anglaise cette fois, Thomas Hobbes ne reprend-il pas exactement le geste de Bodin en lui donnant certes une assise philosophique plus solide? C'est ma première question adressée aux deux spécialistes de la pensée de Hobbes qui me font l'honneur et le plaisir d'être à mes côtés ce matin. Julie Saada, professeure de philosophie à Sciences Po, bonjour.
Bonjour Géraldine.
Et Luc Foineau, directeur de recherche au CNRS en philosophie politique, bonjour.
Bonjour Géraldine.
Alors, Hobbes est-il le Bodin des Anglais?
Ben, à beaucoup d'égards, oui, dans la mesure où Hobbes reprend exactement à Bodin, qu'il est l'un des seuls auteurs à citer, la théorie de la souveraineté. Or, quelle est l'importance de cette théorie de la souveraineté pour la théorie de l'État moderne? Elle est très simple, elle est de savoir qui est souverain, qui est sujet. Les guerres civiles se produisent, nous disent les deux auteurs, et Bodin le premier, en 1576, dans les six livres de la République, lorsque l'on n'est plus capable de dire qui est le sujet et qui est le souverain. Dans le texte, effectivement, que l'on a entendu, la question est de savoir, par exemple, si un dictateur à qui l'on va confier, déléguer un pouvoir pendant quelque temps, est un véritable souverain. Non, nous dit Bodin, il n'est qu'un sujet dans la mesure où le pouvoir lui a été délégué pour un temps déterminé. Donc ici, ce point est le point décisif. Il y a bien évidemment des différences entre Hobbes et Bodin, mais ces différences sont d'un autre ordre, du point de vue de la doctrine, qui est la doctrine fondamentale du droit public, qui est encore la nôtre aujourd'hui. Ils sont fondamentalement d'accord. La différence provient de la justification qui sera donnée effectivement à cette théorie.
Julie Saada.
Oui, en effet, avec les deux auteurs, avec Bodin et Hobbes, on est dans des contextes analogues, c'est-à-dire comment répondre, comment bâtir, disons, une théorie de l'État qui puisse assurer une stabilité et la sécurité des sujets, en même temps que celle du royaume. Et donc, tous les deux, voilà, veulent répondre à ce problème. Hobbes dit bien, dans Le Citoyen, qu'il a voulu construire un État qui ne soit pas comme une maison bâtie sur le sable. Donc, on a cette idée d'instituer un État auquel est associé, peut-être pour la première fois, par Bodin, le terme de souveraineté. Le terme de souveraineté existait auparavant, mais l'idée d'État souverain est en effet formulée par Bodin et formulée en termes d'absolutisme, c'est-à-dire d'État absolu. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Dans le passage que nous venons d'entendre, cela est assez clair. C'est-à-dire que l'autorité politique est absolue si elle peut faire les lois sans être lié par les lois elles-mêmes.
Oui, ce qui pour nous aujourd'hui est absolument stupéfiant, ça mérite explication.
Ça ne correspond pas du tout à l'état de droit. Voilà, on a bien l'idée, disons, d'une autorité absolue. Et donc, il revient au souverain de faire les lois, de pouvoir y déroger. Et c'est ce qui permet à sa souveraineté d'être indivisible et absolue, c'est-à-dire d'exclure toute limitation effective ou matérielle. Alors, il y a des différences, comme Luc Foineau vient de le rappeler, entre Hobbes et Bodin. Alors, chez Bodin, il y a l'idée, en tout cas, de la possibilité par les magistrats inférieurs d'adresser des remontrances au souverain lorsque celui-ci n'observe pas la loi naturelle, lorsqu'il ne tient pas ses promesses. seulement ce ne sont que des remontrances.
Voilà.
Hein. En aucun cas il n'y a un droit
pas
de
forcément efficace et probablement
pas
non
forcément
d'ailleurs.
Efficace. Hein. Je rappelle que Bodin s'oppose au monarchomaque et à tout un ensemble de théories du droit de résistance, hein, plutôt portées par les protestants à son époque. La conséquence, c'est que on peut faire, les magistrats peuvent faire remonter des remontrances, mais en aucun cas ils ne peuvent désobéir, ils peuvent démissionner. Voilà. Donc on a bien cette idée de monarchie absolue, sans droit de résistance, sans droit, disons, d'opposition.
Et c'est le prix à payer, Julie Saada, pour l'ordre, c'est-à-dire pour la paix, puisque c'est un peu comme cela qu'il pense, aussi bien Hobbes que Bodin. C'est le prix à payer, créer ce monstre, c'est un Léviathan, hein, dira Hobbes, il assume ce monstre qui peut tout, qui n'est pas lié par ses propres volontés, il peut en changer, les lois, il en est absous lui aussi, c'est quand même assez fou, mais il n'y a pas d'autre solution.
Alors pour ce qui est de Bodin, on va passer à Hobbes tout de suite, mais pour ce qui est de Bodin, Bodin a évolué, c'est-à-dire il a écrit un ouvrage antérieur où il envisageait plutôt une suprématie limitée, hein, de la part de l'État. Donc le fait qu'il y ait ces guerres de religion, ces théories, disons, du droit de résistance le conduisent en tout cas à développer une théorie de la souveraineté absolue. Chez Hobbes, comme il a été rappelé, c'est le contexte de la guerre civile anglaise. Et pour Hobbes, en effet, disons, une souveraineté divisée, une souveraineté partagée n'est pas une véritable souveraineté, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas assurer la protection, la sécurité des citoyens. Hobbes le dit à la toute fin du Léviathan. Il explique le sens, finalement, de son ouvrage de 1651. Il dit « J'ai voulu mettre sous les yeux des hommes le lien qui existe entre protection et obéissance. » Voilà. Et c'est ce lien-là, en fait, qu'il veut démontrer dans tout le Léviathan.
Ce qui est quand même un argument. Parce qu'il, c'est une phrase aussi qui est déjà présente dans le chapitre 21, l'obligation des sujets envers le souverain s'entend aussi longtemps et pas plus que dure la puissance grâce à laquelle il a la capacité de les protéger. C'est un argument qui doit s'entendre, une remarque qui doit s'entendre en deux sens. S'il a la capacité de la protéger et on fait tout pour le dispositif qui lui donne un énorme pouvoir est fait pour cela, eh bien oui, ce pouvoir sera énorme. Mais attention, s'il échoue avec... en ayant pourtant entre ses mains un dispositif si puissant, s'il ne protège plus ses sujets, c'est pas une question de droit, c'est une question de fait.
Voilà.
Ça ne marchera plus.
Exactement, c'est pourquoi il est décrit dans l'introduction du Léviathan et à d'autres passages comme un dieu mortel. Hein, le Léviathan, c'est en effet ce monstre marin. Hobbes emprunte la métaphore au livre de Job. Hein, il y a Léviathan et Behemoth qui sont associés. C'est un artifice, hein, une créature, disons, créée par les hommes, afin d'assurer, en effet, leur sécurité, leur protection par le moyen d'un état stable. Il est comme un dieu, c'est-à-dire c'est ce par quoi les hommes assurent leur propre salut, en tout cas terrestre, mais il est un dieu mortel, c'est-à-dire que le jour où, en effet, comme vous le soulignez, Géraldine, où le Léviathan ne peut plus assurer la protection, la sécurité des sujets, en effet, il meurt. Il y a toujours
il meurt et tout le monde retourne à un état de nature très sanglant. Alors justement, on dit souvent qu'un système aussi élaboré et solide que la pensée de Hobbes, qui dit qu'il n'y a pas d'autre solution qu'un Léviathan, une souveraineté absolue qui peut véritablement tout, c'est dû à son anthropologie, sa vision des êtres humains. S'il n'y a pas d'État, si on est à l'état de nature, qui est une fiction, mais une fiction très utile pour réfléchir, Luc Foineau, qui sommes-nous, nous les humains, à l'état de nature, selon Hobbes? Qui sommes-nous? Comment nous comportons-nous?
Alors, avant de répondre sur ce point, il faut dire que cet état de nature, cette description est une fiction, et c'est une fiction qui est une fiction ad hoc. Elle a été inventée par Hobbes pour... en fonction du résultat auquel il veut parvenir, c'est-à-dire la nécessité de cette souveraineté absolue. Si nous voulons persuader nos concitoyens de la nécessité d'un pouvoir aussi considérable, qui est une chose extrêmement nouvelle au XVIe et XVIIe siècle, eh bien il faut un dispositif philosophique de démonstration entièrement nouveau. Ce dispositif de démonstration, c'est l'état de nature, et dans cet état de nature... que découvrons-nous? Nous nous découvrons nous-mêmes sous les traits, effectivement, d'êtres extrêmement, disons, j'allais dire sanguinaire, d'être jaloux,
craintif,
défiant,
des autres.
Craintif. Et la vie dans cet état de nature et le résultat de cette interaction entre les êtres humains dans cet état de nature est un état de guerre perpétuelle. État de guerre perpétuelle qui ne veut pas dire que nous nous faisons la guerre et que nous bataillons jour après jour, mais qu'il n'y a jamais véritablement d'assurance que nous pouvons vivre en sécurité. Cette liberté politique pour Montesquieu qui est le sentiment de la sécurité que nous avons, c'est ce qui fait défaut absolument dans l'état de nature de Hobbes. Donc, l'état de nature de Hobbes est là pour nous persuader de manière rationnelle qu'il nous faut absolument en sortir.
Il n'y a rien dans l'être humain qui arrête son désir de se conserver par tous les moyens, c'est l'expression de Hobbes, y compris par la violence. Il n'y a pas de conscience morale supérieure, de notion universelle du bien, du mal qui arrêterait notre intérêt, même notre raison. Luc Foisneau est avant tout une machine à calculer, quoi, qui essaye de savoir quels sont les moyens les plus utiles à ma conservation. Il n'y a pas de sens moral universel à l'état de nature.
Non, mais il y a une loi naturelle. La raison demeure. Nous sommes des êtres de passion, mais aussi des êtres de raison. Si nous n'étions que des êtres de passion, nous ne pourrions jamais sortir de l'état de nature. Cette raison est là qui va nous persuader que dans des circonstances comme celles qui sont décrites par Hobbes, oui, avec les passions qu'il attribue aux êtres humains, il n'y a qu'une seule solution. Cette solution est de rechercher la paix pour établir un nouvel état.
Et c'est un calcul, ce n'est pas un sens moral.
Et c'est
premier,
un calcul et ça n'est pas un sens moral. L'idée du sens moral sera inventée plus tard, mais c'est un calcul. Mais notre raison, elle fait, et c'est même une sorte de dictat, de précepte de notre raison qui nous permet justement de nous en sortir.
Je voudrais vous entendre aussi, Julie Saada, sur cet état de nature, mais je vous propose juste quelques lignes de Hobbes, de ce fameux chapitre 13 du Léviathan. C'est dans le premier livre qui s'intitule « De l'homme ». Le chapitre s'intitule « De la condition du genre humain ». C'est peut-être la clé de tout le système de la pensée politique de Hobbes. Écoutez.
Une conséquence de cette guerre de chacun contre chacun est que rien ne peut être injuste. Les notions du bon et du mauvais, du juste et de l'injuste n'ont pas leur place ici. Là où n'existe aucune puissance commune, il n'y a pas de loi. Là où il n'y a pas de loi, rien n'est injuste. C'est aussi une conséquence de ce même état de nature qu'il n'y a ni propriété, ni pouvoir, ni distinction du tien et du mien, et que ce qui peut appartenir à chacun, c'est ce qu'il peut obtenir et conserver aussi longtemps qu'il le pourra. Tel est donc le misérable état du genre humain dans lequel il se trouve par nature. Il lui est pourtant possible d'en sortir, pour une part par les passions, et pour une autre part par sa raison. Les passions qui poussent les humains à la paix sont la peur de la mort, le désir des choses nécessaires à une existence confortable, et l'espoir de les obtenir par leur activité. La raison suggère les articles de paix adéquats, sur lesquels ils se mettront d'accord. Ces articles sont ceux qu'on appelle encore « lois de nature ».
Julie Saada, l'état de nature est un état, semble-t-il, pour Hobbes où tout est relatif. Je fais ce que je veux, c'est mon droit naturel, autrui fait ce qu'il veut, et il n'y a pas de lieu supérieur, moral, d'où juger. C'est, C'est terrible. Je vous écoute.
Oui, oui, c'est terrible. En effet, c'est cette situation terrible que décrit Hobbes lorsqu'il veut répondre à la question, finalement, ou nous faire comprendre hein, la réponse qu'il donne à la question « à quoi sert l'État ?». Hein, si on compare à l'état de nature chez Rousseau, Rousseau ne cherche pas tant à répondre à cette question-là qu'à répondre à la question « qu'est-ce que l'homme ?». Donc, ce qui intéresse Hobbes, c'est pas tant une anthropologie, même si oui. évidemment il y a des éléments anthropologiques, que... la façon, comme l'a dit Luc, de produire des justifications de l'État et de l'État absolu tel que lui-même l'entend. Alors, en effet, l'état de nature, ce qui caractérise l'état de nature, c'est ce problème moral-là, en fait, celui du relativisme moral. D'accord ? C'est-à-dire que chaque individu définit le bien et le mal à sa façon, en fonction de ce qui lui est utile ou de ce qui est bon pour lui, ou à l'inverse, de ce qui est mauvais et de ce qui contrevient donc à son intérêt. Et donc, on a ce problème du relativisme qui fait que les individus, poursuivant leur propre intérêt, ne peuvent, dit Hobbes, que s'opposer là où il n'y a pas de souverain. Alors, c'est assez intéressant, disons, dans le contexte anglais de cette époque-là, parce qu'il y a, alors, il y a plusieurs interprétations. Hein. Certains disent, par exemple, Luc va dans le sens, ils disent, voilà, c'est une façon d'intégrer la science moderne, il y a une référence à Galilée, etc. Il y a aussi des lectures de cette question-là du relativisme moral chez Hobbes, par exemple, celle que fait Richard Tuck, qui est une reviviscence du scepticisme, hein, d'accord, du scepticisme moral. Mmh. Il y a, à cette époque-là, tout un retour du scepticisme antique, Sextus Empiricus est traduit, réédité en anglais, etc. Et la thèse de Tuck consiste à dire que cette thèse du relativisme moral est une thèse sceptique. La poursuite de l'intérêt individuel fait que chacun considère comme juste ce qui est bon pour lui, et donc la conséquence est qu'on ne peut identifier une règle de droit ou une règle du juste ou une définition de la justice qui aurait une portée universelle. Et Tuck dit, en fait, ce que fait Hobbes, c'est que il va faire de la poursuite de l'intérêt individuel la règle valant pour tous, c'est-à-dire il retourne l'argument, hein, chacun, en poursuivant son intérêt individuel, eh bien, au fond, obéit à une loi, disons, universelle, et c'est cette loi-là qui va servir, disons, de critère de justice, du moins dans les lois naturelles. Voilà, chacun donc, suit son intérêt oui. individuel.
Pardon, c'est juste pour essayer de souligner là le point très important que vous évoquez. Vous avez évoqué beaucoup de lectures de Hobbes. On pourrait aussi citer Léo Strauss au XXe siècle, qui disait que finalement la crainte de la mort violente, qui est l'état dans lequel nous sommes, à l'état de nature. Ben finalement, on pourrait peut-être s'en servir. À un moment donné, les hommes calculent avec leur raison et se disent « c'est pas possible de vivre comme ça, il faut qu'on trouve un moyen ». Et donc, le paradoxe, c'est que ce moyen, c'est d'aller à fond, si j'ose dire, dans notre peur, Luc Foineau. Et donc quoi ?
Aller, oui, aller jusqu'au bout de la peur, mais de la peur sans jamais perdre raison. Et Hobbes, de ce point de vue-là, à propos de la peur, est très clair. La peur qui produit de bons effets, car il y a de bons effets de la peur, selon lui, c'est une peur qui reste toujours une peur raisonnable, rationnelle. Il y a de la rationalité dans la peur, et c'est cet élément de rationalité présent dans la peur, qu'on retrouve également dans les conduites prudentielles. Quand on est prudent, si on est prudent, c'est qu'on a peur. Cet élément de rationalité, il faut le faire jouer au maximum dans l'état de nature pour que ces êtres orgueilleux, vaniteux, qui, disons, peuvent se battre pour des bagatelles, nous dit-il, finissent par décider que la seule solution, c'est d'arrêter de se battre et de sortir de cet état. Donc, si nous n'avions pas peur, eh bien finalement, nous dit Hobbes, nous resterions dans l'état de nature. Et ceux qui n'ont pas peur, ceux qui pensent être tellement puissants que rien ne leur arrivera, sont des gens extrêmement dangereux. Ce sont peut-être les êtres humains les plus dangereux, puisque ceux-là ne s'arrêtent jamais et ne sont jamais capables de passer un accord avec autrui.
Donc la peur de la mort violente, la peur en général, c'est à la fois ce qui rend l'état de nature invivable, mais ainsi est-il, et c'est ce qui donc, à un moment donné, produit une sorte d'injonction rationnelle intérieure. C'est ce que Hobbes appelle des lois de nature, qui vont peu à peu rendre raisonnable le fait de construire un État très très fort. Écoutez le non moins fameux chapitre 14, après le 13, du livre 1 du Léviathan de Hobbes.
Le droit de nature est la liberté que chacun a d'user de sa propre puissance comme il le veut lui-même pour la préservation de sa propre nature, autrement dit de sa propre vie. Une loi de nature est un précepte ou une règle générale trouvée par la raison selon laquelle chacun a l'interdiction de faire ce qui détruit sa vie ou ce qui le prive des moyens de la préserver. Aussi longtemps que perdure ce droit naturel de chacun sur toute chose, c'est un précepte ou une règle générale de la raison que chacun doit s'efforcer à la paix aussi longtemps qu'il a l'espoir de l'atteindre, et quand il ne peut l'atteindre, qu'il peut chercher et utiliser tous les secours et avantages de la guerre. À partir de cette loi de nature fondamentale, on déduit cette seconde loi de nature. Que ce soit la volonté de chacun, si c'est également celle de tous les autres, d'abandonner ce droit sur toute chose et de se contenter de disposer d'autant de liberté à l'égard des autres que les autres en disposent à l'égard de lui-même. Dans l'état de nature, celui qui s'exécute en premier n'est aucunement assuré que l'autre s'exécutera après lui. Mais dans l'état civil, là où il existe une puissance établie pour contraindre ceux qui autrement violeraient leur parole, cette peur est sans raison.
Donc, à un moment donné de cet état de nature guerrier, terrifiant, les individus comprennent qu'il leur faudrait abandonner chacun leur droit absolu de décider comment ils se conservent, comment ils survivent, à condition bien évidemment que tout le monde le fasse en même temps. Mais est-ce que tout le monde va abandonner vraiment, Luc Foineau, ce droit naturel premier? Est-ce qu'il n'y a pas un individu ou un dispositif qui, si j'ose dire, ne signe de contrat d'abandon de ses droits naturels avec personne? C'est très difficile ce point chez Hobbes, c'est peut-être la clé de tout. Je ne voudrais pas qu'on l'évite. Vous êtes d'excellents pédagogues, je voudrais vraiment que vous alliez au fond de ce problème. Comment c'est possible qu'on abandonne tous nos droits, sauf quelqu'un?
C'est la clé. C'est la clé du problème, effectivement, posé par Hobbes. Pour répondre à cette question, il y a deux éléments. Premier élément, la situation de l'état de nature et le résultat du raisonnement que l'on fait, que l'on doit faire, si l'on est raisonnable dans cet état de nature. Le résultat de ce raisonnement est le suivant. Nous sommes face à un choix absolument, disons, décisif, qui est le choix entre, d'un côté, aller dans la direction de la paix, si on a l'espoir de l'obtenir, ou de l'autre, dans la direction de la guerre, en utilisant tous les moyens de la guerre. Hobbes est probablement l'un des penseurs qui a posé de la manière la plus radicale cette alternative. Pour sortir, il faut bien évidemment choisir la voie de la paix. Pour choisir la voie de la paix, il faut renoncer au droit de la guerre, renoncer à ce droit que tout le monde dispose par nature. Oui. Et pour aller et pour rendre ce renoncement possible, il faut que l'une, et je reviens à votre présentation, Géraldine, il faut que l'une des personnes ne sorte pas de l'état de nature. Cette personne, c'est le souverain. Pourquoi ? Parce que si le souverain sortait de l'état de nature, il ne serait pas en mesure de défendre l'ensemble des personnes que nous sommes qui avons renoncé à notre droit de faire la guerre de manière absolue face aux autres communautés humaines qui, elles, demeurent par rapport à la communauté nouvellement fondée par rapport à l'État dans l'état de nature. Donc la situation de la souveraineté, pour que le dispositif de souveraineté fonctionne, il faut effectivement que nous renoncions dans l'état de nature, qu'un ensemble de personnes dans l'état de nature renonce au droit de faire la guerre, au droit de se défendre absolument et confie en quelque sorte, cette chose extrêmement précieuse, confie le droit de les gouverner à une tierce personne, mais qui elle-même ne s'engage pas à leur égard. On revient ici au premier point.
Oui, il ne contracte pas le souverain. Il ne s'engage à rien du tout. On croit parfois que, mais ça c'est du John Locke, c'est pas du tout du Thomas Hobbes, on verra ça demain. Mais le souverain, il est précisément celui, le dernier à rester dans l'état de nature, à ne signer rien du tout avec personne, à ne rien abandonner. Et c'est de là que naît sa force stupéfiante.
Absolument. Et c'est aussi ce point que Hobbes reprend à Bodin. La différence entre le souverain et les sujets doit être maintenue absolument. C'est aussi un des sens de l'absolutisme.
Mais alors comment on fait ? Il faut à la fois que tous les autres, à part le souverain, abandonnent leurs droits à peu près en même temps, parce que sinon il y a quand même un imbécile qui abandonne ses droits face à un autre et à tous les autres qui pourraient ne pas le faire si on s'apprend trop de temps. Donc il faut une relative simultanéité, au moins pour une très grande partie des individus. Et puis il faut déjà d'une certaine façon qu'on ait décidé qui est le souverain, c'est-à-dire celui qui non seulement ne signe aucun contrat de ce genre, mais en plus est le garant des contrats des autres, les obligeant à exécuter ce qu'ils ont signé. C'est quand même un moment, certes de fiction, mais on se dit, mais c'est presque pas possible que ça arrive, Julie Saada.
Oui, alors, deux points me semblent importants à souligner. Le premier point, c'est que l'état de nature n'a jamais existé, c'est une hypothèse rationnelle, c'est éventuellement, comme dit David Gautier, une hypothèse contrefactuelle, hein, c'est-à-dire c'est... la façon dont nous vivrions en l'absence de l'État, d'accord ? Donc on prend une réalité, on la soustrait, voilà, on a du contrefactuel. Le pacte, c'est pareil, c'est-à-dire Hobbes ne dit jamais l'ensemble des hommes rassemblés en un même point, etc., ce qui est impossible. Donc là encore, le pacte, si on le pense comme un avant et un après, c'est-à-dire un état de nature, on en sort, on fait un pacte, il y a tout un tas de difficultés, c'est à peu près incompréhensible. En réalité, le pacte, c'est le raisonnement que nous, citoyens, devons faire si nous voulons un État stable qui nous garantit la paix et la sécurité, hein, et donc qui pourra la garantir si nous obéissons aux lois, si nous obéissons aux souverains. Mmh. Donc là encore, on est dans le contrefactuel. En effet, comment des hommes à la fois rationnels et irrationnels vont sortir de l'état de nature ? S'ils sont passionnels, on ne voit pas comment ils pourraient en sortir. S'ils sont rationnels, on ne voit pas pourquoi ils auraient besoin d'en sortir. Donc cette combinaison des deux...
Si on voit quand même, c'est pour survivre.
Oui, oui. Non, mais bien sûr, il y a toujours des raisons. Mais il faut pas, oui. Si l'on pense en termes de chronologie,
oui, oui.
On comprend pas vraiment.
La narration voilà. Du passage de l'état naturel à l'état civil chez Hobbes reste assez énigmatique.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, on n'en a pas vraiment besoin. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se représente ce qu'il se passerait en l'absence d'État, en l'absence de pacte social, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en effet, Hobbes, en gros, jusqu'au Léviathan, il a un modèle de pacte social qui se fait par le dessaisissement de droits. Donc, c'est comme vous l'avez dit tous les deux, chaque individu renonce, alors tout ceci est réciproque, de même que les autres, et exactement en même temps, à utiliser librement sa puissance, à exercer librement son droit naturel, au profit d'un tiers qui, lui, ne contracte pas. Donc, en effet, la puissance de ce tiers, le souverain, est sans limite, d'accord, puisque lui-même n'est pas lié par un pacte. Seulement, c'est une difficulté. Pourquoi ? Parce que son droit n'est pas politique. Il reste seulement du droit naturel et qu'on ne comprend pas bien comment l'unité des citoyens pourrait être produite. C'est ce qui fait que dans le Léviathan, Hobbes ajoute à ce modèle du dessaisissement celui de la représentation politique qu'il construit, sa théorie de la représentation. C'est aussi un des grands apports de Hobbes, hein, c'est-à-dire c'est une paradoxalement une théorie de l'État absolu et représentatif. Ce qui pour nous est un peu étrange, mais ça il le développe au chapitre 16. Et la théorie de la représentation fait que chaque individu, chaque devenu citoyen, doit se reconnaître comme l'auteur des paroles et des actions que fait ou que prononce le souverain. Et donc là, il y a en quelque sorte une sorte, disons, de relation immanente. Voilà. Et le droit du souverain devient du droit politique. Alors, il n'est pas lié par des limites, mais au contraire, il est en permanence autorisé. Mais les autres le sont, bien sûr.
Alors évidemment, le problème, c'est que il est quand même dans l'état de nature sur le plan de sa volonté. Le souverain peut faire ce qu'il veut. Et le pari est que s'il est la seule volonté une effective, eh bien, c'est beaucoup mieux que s'il y en a de multiples, et ça produira de l'ordre de la paix, et mieux que cela encore, cette volonté sera celle d'un représentant politique. Parce que, dit-il, dit Hobbes, et ça je voudrais que vous le commentiez, Luc Foineau, fameux chapitre 16, il n'y a pas d'autre moyen de créer de l'unité dans le multiple que de mettre en œuvre ce dispositif. Pourquoi ?
Oui, alors effectivement, l'opposition multiple-unité est une opposition classique, en fait, depuis l'Antiquité. Hobbes la reprend à propos, effectivement, de l'État. Son idée, c'est... Il faut tout de même rappeler, et Julie l'a fait, et vous-même Géraldine l'avez fait, qu'il écrit ce texte, le Léviathan, dans un contexte de guerre civile. Mmh. Guerre civile, ça veut dire que l'unité du peuple est perdue. Donc, la question du Léviathan, la raison pour laquelle il introduit cette théorie de la représentation, c'est qu'il lui faut repenser une unité politique de la multitude. Et oui. La solution qu'il apporte est une solution juridique. Il nous dit l'État, certes, c'est un souverain, c'est une personne, mais c'est aussi une personne morale. Il y a une unité fondamentale de cette personne morale, et c'est cette unité de la personne morale qui fait l'unité du peuple. Oui. Autrement dit, le peuple n'est un et n'est jamais un que parce qu'il est représenté. Et ça, c'est un coup de force théorique incroyable, parce que avant lui, on aurait dit « le peuple existe, il a une réalité de peuple ». Hobbes nous dit « pas du tout, regardez la guerre civile, ce peuple anglais que vous pensiez un, il se fait la guerre par faction interposée, la faction du roi et la faction des parlementaires ». Donc, il faut repenser complètement l'unité, repensons l'unité à partir... de l'idée de personne représentative. Vous n'êtes un peuple que parce qu'il existe un roi pour vous représenter.
Alors, le fait que le mot « people » en anglais soit un pluriel, contrairement au français où « peuple » c'est un singulier, ça ajoute des choses à la complication des anglais. A priori, le peuple, c'est... une multiplicité. Et la question de l'unité est un problème déjà dans la langue. Alors évidemment, en créant cette unité par une personne qui représente les gens, là je dis volontairement autrement, cela conduit à une situation où le juste et l'injuste soudain se mettent à exister. Mais c'est par pure convention, c'est un artifice. Et gare à celui ou à celle qui contesterait la justice telle que la souveraine l'a établie. Écoutez.
Parce qu'un souverain a été proclamé par le consentement de la majorité des voix, celui qui était contre doit maintenant consentir avec les autres. Autrement dit, être satisfait d'entériner toutes les actions accomplies par le souverain. Sinon, il sera juste que les autres l'éliminent. Et qu'il soit du groupe ou non, que son accord soit sollicité ou non, il doit ou bien se soumettre au décret du groupe, ou bien demeurer dans l'état de guerre où il se trouvait auparavant. État dans lequel il peut, sans injustice, être détruit par n'importe qui. Et parce que chaque sujet est, en vertu de cette institution, l'auteur de toutes les actions et de tous les jugements du souverain institué, il s'ensuit que quoi que le souverain fasse, cela ne peut constituer une injustice pour ses sujets, pas plus qu'il ne peut être accusé d'injustice par aucun d'eux. En effet, celui qui se plaint d'une injustice de la part de son souverain se plaint de cela même dont il est l'auteur. Et donc, il ne doit accuser d'injustice nul autre que lui-même. Non, même pas lui-même d'injustice, car c'est impossible de commettre une injustice envers soi-même. Il est vrai que ceux qui possèdent la puissance souveraine peuvent commettre une inéquité, mais pas une injustice ou un préjudice au sens propre du mot.
C'était... un extrait du chapitre 18 du Léviathan de Hobbes. Julie Saada, donc les individus ne peuvent jamais commenter, avoir des avis sur ce que fait le souverain au nom de normes morales supérieures. On a vu d'ailleurs que dans l'anthropologie de Hobbes, état de nature, ça n'existe pas. il doit subir l'artifice du juste et de l'injuste tel que le souverain les établit. C'est acceptable, ça, vraiment. Je veux dire, j'ai bien compris que l'état de nature n'avait jamais vraiment existé, mais l'état civil dont il parle, il faut qu'il existe pour Hobbes. Mais y a-t-il jamais eu des peuples pour accepter une chose pareille ?
Alors, il y a déjà la question, voilà, comment Hobbes justifie cela ? Ensuite, si c'est acceptable, bon, je pense que personnellement, non, mais c'est peut-être un autre sujet. Ouais. Quand vous dites, les sujets, les citoyens subissent le souverain, éventuellement ses injustices, en réalité, pas pour Hobbes.
Oui, c'est-à-dire qu'ils l'auteur, ne subissent les
pas,
auteurs, oui.
Puisqu'ils sont réputés être les auteurs voilà. de ce que dit et de ce que fait le souverain. Autrement dit, il n'y a pas de droit de résistance, il n'y a pas de possibilité, disons, il n'y a pas de droit opposable au souverain. Pourquoi ? Parce que, au fond, un séditieux, par exemple, je reprends le vocabulaire de Hobbes, celui qui va désobéir à la loi, en réalité, désobéit à une loi qu'il a voulu lui-même à travers son représentant. Mmh. Autrement dit, il se contredit, il ne peut pas vouloir une chose et vouloir son contraire. Ça revient à dire que toute forme de contestation politique est réduite, pour Hobbes, à une forme d'irrationalité. Et donc, elle ne peut pas entrer dans son dispositif de la souveraineté absolue, qui vise au contraire à penser les conditions rationnelles de la paix, de la sécurité, etc. Donc, il n'y a pas de droit opposable, disons, au pouvoir de l'État. Il n'y a pas encore moins de droit de résistance. Et somme toute, on peut dire qu'avec ce dispositif de la représentation politique, Hobbes identifie le politique au pouvoir de l'État, il absorbe le peuple dans une définition, disons, purement juridique et formelle, qui fait que le peuple n'existe comme peuple et non plus comme multitude désunie que grâce au souverain, et donc il ne peut, alors on n'est pas du tout chez Locke, comme vous le verrez très certainement demain, où le peuple peut s'opposer au magistrat sous certaines conditions, etc., parce qu'il existe indépendamment du magistrat. Chez Hobbes, il n'y a rien de tel. Voilà, le concept de représentation et de représentation du souverain fait que tout désaccord, en réalité, est impossible. Et donc, celui qui contesterait, qui agirait, alors il peut contester en son fort intérieur, mais enfin là, il n'y a que des pensées, on n'appelle pas ça vraiment, disons, de la contestation. La contestation, voilà, est devenue impossible. Et par conséquent, la rébellion, la contestation du pouvoir sont irrationnelles et ne sont rien d'autre, s'il y a, disons, un passage à l'action, qu'une rupture du pacte social, un retour à l'état de nature. Hobbes en déduit que le souverain peut faire la guerre, peut faire la guerre aux séditieux. Pourquoi ? Parce qu'il a quitté les termes du pacte social et donc il est revenu à l'état de nature qui est un état de guerre, tout simplement.
Le souverain peut donc évidemment exiger l'obéissance absolue en acte et en parole, c'est important, il y aura quand même des philosophes pour distinguer les deux plus tard, l'obéissance absolue des sujets. D'une certaine façon, Luc Foineau, il reste quand même quelque chose de cette théorie, même dans nos démocraties qui sont des états de droit où nous avons beaucoup de droits opposables au souverain. C'est que quand même la loi, normalement, même si elle ne nous plaît pas, même si nous la jugeons immorale, même si nous avons d'autres critères qui peuvent être entendus, nous devons lui obéir en acte. Simplement, nous avons laissé un espace qui, pour Hobbes, c'est incompréhensible, n'a aucun sens et ne peut que fragiliser l'État et l'ensemble de la société dans son état civil. Nous avons un espace de discussion, nous pouvons discuter, critiquer le souverain, ça s'appelle la liberté d'expression. Pour Hobbes, tout ça n'a aucun sens et il radicalise l'idée de l'obéissance.
Absolument, il radicalise l'idée de l'obéissance, mais il laisse également la possibilité, en fait, d'une forme de liberté. Il existe une liberté dans l'État hobbesien. Ça n'est pas du tout un État.
Racontez-nous cette liberté.
Et cette liberté hobbesienne, elle est très importante. Elle est fonction aussi des situations concrètes dans lesquelles les États se trouvent. Il y a des situations de guerre civile, de guerre extérieure, dans lesquelles la liberté des individus, la liberté de s'exprimer, la liberté de commercer, est extrêmement réduite. Mais il peut exister des périodes de paix dans lesquelles un État hobbesien accorderait aux gens une possibilité de s'exprimer plus grande, si elle n'est pas incompatible avec les fondements, bien évidemment, de la théorie de la souveraineté, et une possibilité de circuler plus grande. Hobbes est très important aussi parce que c'est un historien. Il a un sens aigu de ce que c'est que l'histoire. L'histoire est imprévisible. Et s'il reprend à Bodin sa théorie de la souveraineté, oui, c'est pour l'inscrire dans une pensée également de l'histoire où les circonstances elles-mêmes peuvent changer du tout au tout. La théorie de la souveraineté a ceci d'important, que l'on retrouve encore aujourd'hui dans le cadre de nos démocraties libérales, qu'elle permet effectivement une forme d'adaptation effectivement aux circonstances.
Et donc, il y a comme des éléments, pardon, hobbesiens, mais contrariés aujourd'hui.
Alors les éléments hobbesiens de nos théories aujourd'hui, de la constitution de la Ve République, c'est simplement que le souverain, la manière dont on désigne le souverain et dont on pense le souverain a changé. Le souverain, c'est la nation. La nation qui s'exprime, le peuple souverain s'exprime, disons, par l'intermédiaire du suffrage et du référendum dans le cadre de la constitution de la Ve République. Mais le souverain absolu, c'est nous.
Oui, avec le problème que nous voyons bien, notre manque d'unité, Hobbes triomphe d'une certaine façon. Nous avons des petits soucis d'unité, singulièrement en ce moment, où même la notion de majorité ne marche plus très bien. Évidemment, c'est important ce que vous venez de dire, Luc Foineau. Hobbes veut la vie. Et c'est son meilleur argument. Il pense que si on ne fait pas ce qu'il dit, ce sera la mort. C'est presque un chantage, cet argument permanent. On le retrouve à plein d'endroits du Léviathan, par exemple au chapitre 20. Encore qu'on puisse imaginer, dit-il, maintes conséquences mauvaises d'un pouvoir à ce point illimité. Néanmoins, bien pire sont les conséquences de son absence, laquelle s'identifie à la guerre de chacun contre son voisin. Julie Saada, il veut la vie, il veut son développement. Laissons nos libertés de côté, mais vivons, produisons, ayons de la stabilité. C'est son plus fort argument, non ?
Oui,
survivre.
C'est un argument qui n'est pas négligeable. Hein. On peut difficilement dire qu'on peut absolument se passer de paix, se passer de sécurité, se passer d'un minimum de consensus en dépit ou malgré ou avec, en réalité, le pluralisme, hein, les différentes, disons, conceptions du bien. Néanmoins, Hobbes, disons, nous lègue une question, et je pense que nous la posons également, c'est quel est le prix, quel prix sommes-nous à payer pour cette sécurité? Jusqu'où devons-nous renoncer à notre liberté, oui, non seulement individuelle mais aussi collective, au profit de la sécurité? Voilà, ça c'est une première question. Il y a peut-être une deuxième question que Hobbes nous laisse aujourd'hui, et je pense qu'elle est tout à fait d'actualité, c'est que Hobbes en effet pense les conditions de la paix interne, de la stabilité à l'intérieur de l'État, au moyen d'un État absolu. Mais quant aux relations entre les États, eh bien Hobbes dit que l'état de guerre demeure, l'état de nature demeure. Et donc, somme toute, Hobbes, disons que les solutions que Hobbes donne pour la paix intérieure, les conditions de la paix intérieure deviennent les conditions de la conflictualité internationale. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit, disons, comment dire, un affaiblissement du droit et des institutions internationales, qui évidemment était impensable pour Hobbes, au profit, disons, d'une sorte de, disons, de principe de souveraineté qui tend à l'emporter. Et donc, nous retombons, plus ou moins, là je dis nous retombons, parce que je ne pense pas que, disons, qu'au plan international, la solution hobbesienne en soit une. Hein, en réalité, il n'a pas vraiment de solution. Mais donc, nous retombons dans un principe de souveraineté qui fait fi de toute règle internationale. Donc voilà deux questions, au moins,
oui,
que
mais ça veut
Hobbes
dire
nous
que
permet de poser.
De Netanyahou à Poutine, à Trump et à bien d'autres, nous montrons à quel point nous sommes encore hobbesiens, à savoir que l'impératif de survie justifie, semble-t-il, à l'intérieur de ces pays, un certain autoritarisme qui revient. Alors on verra pour l'Amérique jusqu'à quel point, hein, c'est quand même pas facile avec les institutions américaines, nous parlerons de cela mercredi. Mais sur le plan international, c'est évident. Tout ce qu'on a essayé de construire pour empêcher la guerre, sauvage, où chacun dit « c'est juste et tu n'as pas à me dire ce qui est juste, c'est moi qui décide », cette relativité terrible. Bon, je mange un morceau de pays, ta justice n'est pas ma justice, c'est vraiment là de nouveau, à l'intérieur et à l'extérieur, pensez-vous, Julie Saada ?
Alors, disons que Hobbes nous permet de comprendre ce qu'il se passe, somme toute, si nous nous contentons d'un principe de souveraineté interne qui doit être tel que lui l'identifie. Et donc, en effet, sur la scène internationale, eh bien, nous restons à l'état de nature. Pour Hobbes, par exemple, il n'y a pas du tout de possibilité d'un souverain des souverains ou d'une loi qui serait au-dessus du souverain, par exemple, une loi ou du droit international. Et ça, c'est une difficulté que nous avons aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que si nous nous contentons de défendre uniquement un principe de souveraineté au nom d'une sécurité intérieure, au nom d'une protection intérieure qui devrait être telle que Hobbes la pense, mais il y a d'autres façons de la penser, eh bien, en réalité, il est peu probable que nous échappions à la guerre. Voilà. Et donc, nous avons besoin de penser au-delà du principe de souveraineté. Et donc, une souveraineté qui soit au-delà du modèle hobbesien.
Et si on prend évidemment des situations antérieures qui sont toujours là, des théocraties, l'Iran, des mouvements islamistes durs, on avait l'impression que l'unité se crée pas seulement sur la question de la sécurité, mais sur des idées, des convictions, mais qu'on était prêt à payer le prix fort à l'intérieur et à l'extérieur. C'était ça qu'il fallait faire valoir. Aujourd'hui, l'argument de la sécurité est aussi au cœur d'un certain courant autoritaire mondial. Pas seulement la question de l'idéologie, mais aussi la question de la sécurité.
Voilà, de la sécurité présentée comme comme vraiment les conditions de la survie, comme s'il n'y avait pas de vie collective possible, en protégeant aussi les libertés. Voilà, et donc on tend aujourd'hui à renoncer progressivement à ces idées-là. Donc c'est peut-être des idées pour lesquelles, voilà, il faut... ce sont des idées qu'il faut défendre, tout simplement.
Vous écoutez Otis Redding, cette chanson intitulée Security de 1964. Merci beaucoup Julie Saada, Luc Foineau. Les références de vos travaux, je n'ai pas pu tout citer, mais tout cela se trouve sur le site de notre émission. Et pour ce qui concerne Luc Foineau, je me permets de citer le livre qui vient de sortir au CNRS Éditions, qui est un écho évident à notre série de cette semaine sur l'État. Luc Foineau, manière de gouverner, politique moderne de la souveraineté. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse au paradoxe de l'apprentissage. Voici le pourquoi du comment. «
comment peut-on apprendre quelque chose? Il y a aujourd'hui une révolution dans l'apprentissage qui fait que tout le monde, à raison, à juste titre, se demande ce qu'il en est exactement de cette notion et de cette expérience dans nos vies. Les révolutions de l'intelligence artificielle qui sont fondées sur ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond, qui nous fait croire en effet et penser réellement que la machine apprend à faire des choses, apprend quelque chose par elle-même, imite l'humain dans quelque chose qui est au fond ce qui nous paraissait lui revenir en propre, d'une façon peut-être mystérieuse mais spécifique. Oui, il y a d'abord cette question de la machine qui se met à apprendre et puis du coup, peut-être d'une transformation de notre propre apprentissage qui doit désormais composer avec la manière dont une machine, pour la première fois peut-être dans l'histoire, se met à apprendre. Et pourquoi cela nous surprend-il autant? Pourquoi cela nous surprend-il autant qu'une machine soit capable non seulement de savoir, non seulement de calculer? C'est vrai depuis très longtemps, les ordinateurs calculaient, faisaient des tas de choses, nous aidaient, il y avait même déjà Internet, le numérique, avec par exemple sur le savoir des encyclopédies extraordinaires qui donnaient accès à un grand nombre de connaissances, mais il n'y avait pas encore des machines qui apprenaient, le deep learning. Qu'y a-t-il dans l'apprentissage qui diffère du savoir pour que cela nous étonne autant qu'une machine soit capable d'apprendre et que cela nous effraie ou nous stimule au point que cela nous oblige en tout cas à une révolution dans l'apprentissage humain qui doit désormais composer avec l'apprentissage des machines, avec l'apprentissage technique. L'apprentissage des machines au sens non seulement objectif du génitif, des humains qui apprennent à se servir des machines, mais au sens justement subjectif du génitif, l'apprentissage que font les machines elles-mêmes qui deviennent des sujets de leur propre apprentissage. Tel est en effet le cœur du problème, c'est que apprendre suppose une subjectivité. Apprendre suppose quelqu'un. Comment apprend-on quelque chose? Cela veut dire que le « on » n'est pas rien. C'est quelqu'un qui apprend quelque chose. Qu'est-ce qu'exactement qu'apprendre? Apprendre, c'est le mécanisme par lequel, en effet, quelqu'un, un sujet, une subjectivité, un opérateur en tout cas, se met à savoir faire quelque chose qu'il ne savait pas faire auparavant. Il y a bien sûr des machines qui acquièrent du savoir, mais nous ne disons pas qu'elles apprennent. Nous ne disons qu'elles apprennent que lorsque une machine est capable de faire par elle-même quelque chose qu'elle n'était pas capable de faire auparavant. L'apprentissage, c'est la capacité pour quelqu'un de montrer son autonomie dans la reproduction d'une tâche qu'il ne savait pas faire auparavant. Ainsi, les philosophes sont-ils allés jusqu'à dire que le rôle de la philosophie, c'était de nous apprendre à vivre et à mourir. Comme si nous ne savions pas vivre, eh bien, peut-être que non d'ailleurs, et qu'il faut apprendre à vivre. Et si peut-être apprendre à mourir, ce sur quoi il faudra revenir. Mais apprendre, c'est en tout cas supposer qu'il y a un processus actif mené par un opérateur qui lui-même est actif et qui lui permet de faire quelque chose qu'il ne pouvait pas faire auparavant. Il ne savait pas jouer au tennis, désormais il sait le faire et peut-être même va-t-il progresser. Il ne savait pas non seulement ceci ou cela, mais il ne savait pas calculer, tout à coup il l'apprend. Il ne savait pas parler, mais voici maintenant qu'il invente des nouvelles phrases et du nouveau langage, c'est l'intelligence artificielle générative. Apprendre suppose quelqu'un, c'est cela la révolution de l'apprentissage. Aujourd'hui, le mystère de l'apprentissage en tout temps.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Ludovic Auger. Elle a été préparée en particulier par Anna Felpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Nassim El-Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité.